à rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une sœur, l'une des deux sœurs aînées les plus âgées qui ont servi de mère à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle s'appelait Pauline, elle est née juste après Marie, un an et demi après Marie. Et elle était vraiment, elle, celle qui a le plus marqué Thérèse de l'Enfant Jésus. En religion, elle est entrée à 21 ans au cloître de Lisieux, en Normandie, où l'a rejoint Marie, sa sœur aînée, et les autres, elles étaient quatre, avec Sainte Thérèse de Lisieux, qui est entrée à 15 ans. La dernière à rentrer, c'est Céline, comme vous savez. Elles sont des femmes assez exceptionnelles que ces jeunes filles d'un milieu petit bourgeois, mais où on avait une vie chrétienne si solide que ces femmes sont devenues courageuses. Et Mère Agnès de Jésus n'a pas manqué de courage. Elle est morte en 1951 à près de 90 ans. Près de 90 ans. C'est une longue vie au Carmel. Or, elle était un peu comme la maman de Thérèse de Martin, Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a perdu sa mère à 4 ans. Et c'est Pauline, pour ainsi dire, qui l'a remplacée. Et Thérèse de Lisieux est proposée par le pape comme modèle pour les jeunes. Ça me surprend un peu quand on propose pour les jeunes de nos jours une jeune fille qui est morte à 24 ans. Dans un monastère, sans avoir rien fait en apparence. Mais elle a laissé des écrits. Elle est docteur de l'Église, comme vous le savez, depuis le 19 octobre 1998. Et docteur de l'Église, c'est pas peu de choses, hein? Ils sont très peu nombreux. Ça veut dire qu'ils sont, pour ainsi dire, des modèles d'enseignement. Des personnes auxquelles on peut avoir recours pour comprendre des choses. Et dans son homélie prononcée le chemin ce 19 octobre, le pape, quand il la nomme docteur de l'Église, il déclare ceci. Thérèse de Lisieux n'a pas seulement saisi et décrit la vérité profonde de l'amour comme le centre et le cœur de l'Église, mais elle l'a vécu intensément dans sa brève existence. C'est très important cette phrase, hein? Elle décrit, Thérèse de Lisieux dans ses textes, la vérité profonde de l'amour, comme le centre et le cœur de l'Église. Quand vous allez à l'Église, ce qui doit être le centre de votre vie dans le banc dans lequel vous êtes, c'est l'amour. Quand on pense à l'Église et à ce qui nous est enseigné, il faut croire que ça nous est enseigné dans l'amour. On peut avoir, je le répète, certaines réserves. Notre intelligence doit toujours servir. Mais l'obéissance, ceci doit servir. Et c'est dans l'amour que l'on obéit. Alors le pape dit que cette petite femme de Normandie, d'où viennent la plupart de nos ancêtres, à nous les Québécois de souche, comme on dit, eh bien, quoique moi, ma famille vienne de Champagne, mais elle l'a vécu intensément dans sa brève existence. Et ça, ça peut être un modèle pour les jeunes. Vivre intensément, alors qu'on est jeune, tout cet amour. Puis le pape ajoute, c'est justement cette convergence entre la doctrine et l'expérience concrète. Quoi, elle a mis en pratique ce qu'elle enseignait. C'était pas du blablabla. Il y a une convergence, dit le pape, entre la vérité et la vie chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Entre son enseignement et sa pratique, justement, qui resplendit avec, dit le pape, une particulière clarté dans cette sainte et qui en fait un modèle attrayant, spécialement pour les jeunes. Pour les jeunes, oui, spécialement pour les jeunes. Et pour ceux qui sont à la recherche du vrai sens à donner à leur vie. Parce que souvent, quand on est jeune, on se plaint des adultes dans le même groupe dans lequel on est, on dit qu'ils comprennent rien. Mais en voilà une qui est de leur âge, qui a tout compris. Et le pape ajoute devant le vide de tant de mots, Thérèse présente une autre solution, l'unique parole du salut. Qui comprise et vécue dans le silence. Faut faire silence, c'est pour comprendre. Puis là, le pape dit, ça devient une source renouvelée. Il dit des belles choses, le pape, quand on lit attentivement, hein, que c'est beau. Il ajoute, et c'est très important pour les jeunes, ça, à une culture rationaliste, une culture toute faite de raison, puis de sèche, et puis de ennuyante. Hein. À une culture rationaliste est trop souvent envahie par un matérialisme pratique. Thérèse de Lisieux, je vous le rappelle, est morte à 24 ans, oppose avec une désarmante simplicité la petite voix. Oh, ça peut sembler quétaine, mais c'est pas quétaine pour deux sous. Hein. La petite voix qui, en revenant à l'essentiel, conduit au secret de toute l'existence. Le pape dit, quel est ce secret de toute l'existence? C'est l'amour divin qui enveloppe et pénètre toute l'aventure humaine. Depuis notre conception, nous sommes enveloppés par l'amour divin dans le sein de notre mère, qui conduit tout cet assemblage de cellules et cette formation de notre cœur au 19e jour et la formation de notre cerveau et de tout notre être. Et dès qu'on entre dans le monde en sortant du sein de notre mère au jour de notre naissance, toute notre aventure est pénétrée de cet amour divin qui nous est tendu dans les bras de notre mère et de notre père et de nos frères et sœurs si nous en avons, et ainsi des gens qui nous entourent et qui sont les vrais chrétiens ou les vrais êtres humains solides, qu'ils soient athées ou agnostiques. Et c'est l'amour divin qui est transporté dans l'enseignement que nous recevons. Et le pape dit, en un temps comme le nôtre, marqué bien souvent de tout ce qui est éphémère, marqué bien souvent de l'hédonisme, le sexe, la platitude, quoi. Bien, ce nouveau docteur de l'Église, ce jeune docteur de l'Église, cette jeune femme, se montre douée d'une singulière efficacité pour éclairer l'esprit et le cœur de ceux qui ont soif de vérité et d'amour. Vous savez qu'il y a eu un colloque au Grand Séminaire de Montréal, rue Sherbrooke, près du métro Guy, il y a un an, au mois d'octobre. Et le père Jean de la Sainte-Face, qui est un... Vous direz, c'est un curieux nom. C'est les noms religieux d'autrefois qui sont conservés au Carmel, chez les hommes comme chez les femmes. Et c'est un beau nom. Jean de la Sainte-Face. C'est un carme, il est prieur d'un couvent dans la région de Bordeaux, en France. Hein. Vous avez déjà vu sur votre table, j'espère, du bon vin de Bordeaux. Alors, il vient de cette région. Il a donné une conférence au Grand Séminaire intitulée « Thérèse de Lisieux à la découverte de la Sainte-Face ». Et il a dit des belles choses. Il disait que la famille Martin... Elle a adhéré en 1866 à la dévotion à la Sainte-Face qui avait été lancée par Marie de Saint-Pierre, cette carmélite de Tours, vers 1850. Je vous en ai déjà parlé de sœur Marie de Saint-Pierre. Je vous ai fait une petite émission sur elle. Et l'image de la Sainte-Face circulait déjà. Et Thérèse l'a connue dans son enfance. Grâce à sœur Pauline Martin, sa sœur, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui, le 7 septembre. Et ça l'a marqué, ça, beaucoup, cette dévotion à la Sainte-Face qui lui a été transmise par sa sœur aînée, cette espèce de moment qu'elle avait dans cette sœur aînée. Qu'est-ce que c'est que la dévotion à la Sainte-Face si ce n'est pas une adhésion au serviteur souffrant d'Isaïe? Hein? Vous savez, dans le prophète Isaïe, il parle du serviteur souffrant, puis il décrit Jésus qui va souffrir sa passion 500 ou 600 ans plus tard. Hein? Puis c'est symbolisé aussi par M. Louis Martin, dont je vous ai déjà parlé aussi, le père de Thérèse, qui a beaucoup souffert dans son esprit. Alors, ce jeune qui aujourd'hui entre dans la voie de Thérèse, mais il n'y a pas à s'inquiéter de la profondeur de la passion qu'il aura à vivre. Non, non. Ce qui est demandé, c'est quoi? C'est tout simplement de se donner totalement, dans une grande douceur, dans un grand enthousiasme serein, de s'abandonner. Et le Seigneur va diriger tout le reste. C'est extraordinaire ce qu'un jeune qui se donne, là, le Seigneur s'empare de lui et fait de sa vie une source de bonheur malgré les épreuves, parce qu'il donne les grâces nécessaires. Dieu nous soutient tout le temps quand on a des épreuves. Il est toujours là. C'est nous qui ne savons pas le rejoindre et lui tendre la main. Pourtant, il est au fond de notre cœur. Et la paix et même la joie demeurent au cœur même des souffrances les plus grandes. Puis ce conférencier, Carme, a cité le beau mot de Gustave Thibon. Selon qu'elle est acceptée par amour ou non, la souffrance descend du ciel ou monte de l'enfer. Parce que la souffrance, quand elle n'est pas acceptée, elle monte de l'enfer, on dirait. Elle brûle. Mais la souffrance qui est acceptée par amour, c'est comme si elle descendait du ciel. De toutes les filles Martin, c'est Pauline qui physiquement ressemble plus Madame Martin, dont je vous ai parlé aussi. Elle a aussi le même caractère impulsif que sa mère. Sa mère s'appelait Azélie ou Zélie Martin, et elle se retrouve dans Pauline. Elle s'appuie sur elle. C'est Céline, la jeune, juste avant, Thérèse, qui va rentrer la dernière au Carmel. Elle dit « Notre mère avait pour Pauline une sorte de prédilection. » Et quelques extraits de ses lettres disent assez l'affection ardente qu'il y ait Zélie Martin, Madame Martin, à sa seconde fille. Le 10 octobre 1875, Pauline vient d'avoir 14 ans, puis elle lui écrit ceci. C'est charmant comme lettre d'une mère à sa fille de 14 ans. « Je ne puis résister aujourd'hui au désir de t'écrire, cela va me faire du bien. Car je pense à toi toute la journée. » Ton souvenir ne diminue pas, au contraire. Je n'ai jamais été aussi privé de toi. C'est sans doute parce que tu es rentré seul. Puis, vois-tu, mon affection pour toi va croissant de jour en jour. Tu es ma joie et mon bonheur. C'est beau, une lettre d'une mère à sa fille comme ça. Hein? Enfin, il faut que je me raisonne et que je ne pousse pas trop loin mon amour, car si le bon Dieu allait te prendre avec lui, qu'est-ce que je deviendrais? Madame Martin, elle pense souvent à la mort parce qu'elle a perdu des enfants presque à la naissance. Et puis il y a la mort souvent à cette époque. On meurt jeune souvent. Le 7 novembre suivant, elle lui écrit « Je ne puis te dire combien ta dernière lettre m'a rendue heureuse. J'ai vu tous les efforts que tu fais malgré ta vivacité naturelle. » Parce que Pauline Martin, c'était une petite fille pleine de vivacité. Et puis, j'ai vu tous les efforts que tu fais pour nous faire plaisir à tous. Je t'en sais un gré infini. Si tu savais comme je t'aime. Que c'est beau une mère qui dit ça à sa fille. Si tu savais comme je t'aime. En toi, tout m'attire. Ah, que c'est beau. Je suis très satisfaite de toi, ma petite Pauline. Tu me donnes beaucoup de joie et un grand dédommagement dans les tribulations que je puis avoir. Alors, Pauline est d'une même affectivité que sa mère. Elle se ressemble beaucoup. Hein. En pension, elle est en pension au couvent. Elle s'attache à telle maîtresse, puis à telle amie, avec un exclusivisme dont elle va se reprocher tout ça plus tard. Elle trouve qu'elle a été un peu à l'excès. Elle dit « Quelle misère que ces affections exagérées !»« Oh mon Dieu, pourquoi ne vous ai-je pas uniquement aimé ? Pourquoi me suis-je laissé couper et brûler tant de fois les ailes à cette flamme trompeuse de l'affection si vaine des créatures ?» Alors, je prenais cette pauvre flamme pour la vraie lumière du bonheur, mais elle s'est éteinte et je suis resté blessé, attendant de votre miséricorde des ailes plus brillantes et plus légères, dit-elle, pour voler vers vous, Seigneur, feu divin, qui seul brûlait sans consumer. Au pensionnat, Pauline souffre tout particulièrement de la différence de classe sociale. Presque toutes mes compagnes de la visitation étaient nobles, et c'est incroyable la vanité qui se loge dans ces petites têtes de pensionnaires. Je le sais par expérience. Alors, au pensionnat, Pauline Martin, qui est jeune encore, salue la fatigue, les snobs. Eh bien, elle raconte une histoire, je vous la raconte parce que c'est tellement sympathique. C'est drôle. Elle raconte une certaine petite fille me tourmentait pour savoir si au moins j'avais un parent noble dans ma famille. Je réfléchis et trouve heureusement à lui sortir le nom de Monsieur de Lacauve. Elle ne s'en tient pas là. De quelle couleur est le salon de vos parents et leur canapé? Oh mon Dieu, que vais-je devenir? Je ne connaissais point de salon à mes parents ni de canapé chez nous. Comment avouer cela? Je n'en ai pas eu le courage. Mais j'avais l'esprit vif et je pense aussitôt à une sorte de petite chaise longue en paille qui était au pavillon. C'est jaune, me dis-je, et ça ressemble à un canapé. Alors, je sors ma trouvaille. Notre canapé est jaune. Et cette jeune fille me répond, c'est très distingué. Goût de plaire à autrui et sympathie naturelle envers autrui. Intelligente, tenace dans tout son travail. Voilà la Pauline, la petite Pauline Martin de 14-15 ans, qui provoque sur chacun au pensionnat comme en famille une grande attirance. C'est sa mère, Mme Martin, alors que Pauline n'a que 4 ans, qui dit « Elle se fait aimer davantage que sa sœur, Marie, la plus vieille. » C'est le genre de petite fille un peu pleine de baisers, qui aime embrasser, qui aime se faire aimer, quoi, et qui aime. Elle a une grande affectivité, donc. Elle a un besoin d'affection aussi. Ça la fait s'attacher les êtres qui viennent vers elle. Et il y a un regret de sa situation de fille de famille bourgeoise par rapport aux filles de la noblesse. Hein. Elle souffre un peu de ça à l'école, mais c'est pas grave, faut pas s'en faire. Il y a dès lors chez Pauline une certaine volonté de passer au-dessus de cette infériorité qui est due au sort, comme aussi au-dessus de cette autre infériorité dont elle souffre, celle d'être de petite taille, elle n'est pas très grande. Et Pauline veut être grande, et elle aime s'identifier à ce qui est grand. Elle dit, j'ai reçu une fois pour mes étrennes un beau livre relié doré sur tranche. Ça se faisait beaucoup à l'époque, hein? Des livres qui étaient souvent de couverture rouge, hein? Et doré sur tranche. C'était l'histoire de Fabiola. Ça vous dit quelque chose, Fabiola? Oh oui, les gens plus âgés connaissent ça, hein, au début de l'Église. Je m'enthousiasmais à cette lecture. Tous ces portraits de héros et de vierges martyrs me ravissaient. Et Pauline sera le héros de Thérèse. Il ne faudra jamais l'oublier. Hein? Thérèse Martin, Thérèse Lisieux, a comme héros, comme modèle, sa sœur Pauline, qui va devenir prieure du monastère sous le nom de Mère Agnès de Jésus. Un détail encore, je vous ajoute ça, d'importance. Si Madame Martin, Zélie Martin, appelle sa fille par son nom Pauline, son mari, Louis Martin, l'appelle souvent le petit Paulin, au masculin. C'est une façon de souligner ainsi sa petite taille et son caractère un peu garçon. Le prénom masculin est employé aussi pour les autres enfants envers Pauline. Quand Marie est malade, en 1873, elle veut avoir près d'elle son petit Paulin, dit-elle. Et Thérèse, en mars 76, elle a 3 ans, puis elle demande sans cesse si c'est demain Pâques pour voir le petit Paulin. C'est toujours Pauline Martin, ça. Elle a quelque chose de solide en elle. Avant-hier, elle s'est mise à m'appeler dans le jardin en me disant de toutes ses forces que c'était trop long, qu'elle voulait que ce soit tout de suite. Et cette appellation, qui correspondait chez Pauline à un côté un peu masculin de sa personnalité, ça renforce cet aspect à ses yeux comme aux yeux de ses sœurs et de ses parents. Ça lui donne du prestige jusqu'à un certain point dans ce milieu extrêmement féminin. Sauf pour ce qui est de M. Louis Martin, le père, évidemment. Donc, elle est née, je vous ai dit, c'est l'anniversaire de naissance, je le répète pour les gens qui n'étaient pas là au début, elle est née le 7 septembre 1861. Lui, il dit que c'était une petite fille sympathique, mais elle est espiègle aussi. Puis elle est taquine, si elle est caressante. Donc, c'était à 7 ans hein, qu'elle était entrée dans ce monastère de couvent, là, de la Visitation du Mans. Elle est pensionnaire, là, chez les visitandines. Il y a sa tante qui est là, sœur Marie de Zité. Elle est donc chez les sœurs de la Visitation, qui ont été fondées par sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, quel beau nom, qui en finit plus, et qui est sainte Jeanne de Chantal, quoi. Cette femme merveilleuse qui était la grande amie de saint François de Sales, ben, elle se trouve à l'école de François de Sales. C'est une belle école de bonté, ça. Et Pauline se dispose à entendre déjà l'appel que va lui lancer au fond de son cœur Jésus, le Seigneur, pour qu'elle se consacre totalement dans l'abandon puis l'humilité, qu'elle se consacre à l'amour. Son père, Louis Martin, donne à sa deuxième fille, Pauline, le surnom de Perle Fine. Je vous ai parlé de Louis Martin, c'est l'émission numéro 500. Ceux qui veulent la commander, n'est-ce pas, je donne les numéros comme ça, pour ceux qui veulent commander des cassettes d'autrefois, il les commande toujours à Marc Alexandre. Je vous donnerai son numéro de téléphone à la fin de l'émission. Elle a une personnalité riche et forte, elle est audacieuse et douce, elle est sensible et affectueuse, dit-on, elle qui va être la petite mère, non seulement de Thérèse, mais aussi de ses autres sœurs. Après le décès de sa mère, Zélie, là, je vous en ai parlé, Zélie Martin, la mère, je vous en ai parlé, c'est l'émission 499. Donc, les parents, c'est l'émission 499 et numéro 500. Pauline collabore avec sa sœur aînée Marie à la bonne marche du foyer, les Buissonnets, puis à l'éducation de ses plus jeunes sœurs. Je suis allé aux Buissonnets il y a quelques mois à peine, mon Dieu, au mois de juillet. C'est pas très grand. Hein. Quand vous voyez la photo, ça a l'air d'une grande maison, c'est une petite maison. Quand vient pour Thérèse le moment de poursuivre ses études chez les bénédictines de Lisieux, Pauline juge que le temps alors est venu pour elle d'entrer au Carmel, mais Thérèse trouve que c'est un choc trop dur, elle a de la difficulté. Elle est atteinte d'une étrange maladie, dont va la délivrer plus tard le sourire de la Sainte Vierge. C'est une statue de la Vierge qu'on appelle la Vierge du sourire et dont je vous parlerai le 1er janvier, ce sera l'émission numéro 760. Alors Pauline entre au monastère. C'est dur pour Thérèse. Le 2 octobre 1882, à 21 ans, comme je l'ai dit. Et c'est là qu'elle va prendre le nom d'Agnès de Jésus. Et sœur Agnès de son cloître, elle va continuer quand même de former, puis de soutenir, puis de conseiller sa petite Thérèse, en particulier dans le très dur combat qu'elle doit mener pour obtenir d'entrer au Carmel à 15 ans. Vous connaissez ça, je vous ai tout raconté ça, hein? J'ai parlé de Thérèse, l'enfant Jésus, dans des émissions dont je vous donne les numéros. Ceux qui enregistrent pourront avoir la liste des numéros d'émissions consacrées à Thérèse, l'enfant Jésus. C'est numéro 111, 306, 501, 502, puis 694. Alors, quand Thérèse entre au Carmel le 9 avril 1888, à 15 ans, Pauline s'attend peut-être à poursuivre sa mission de maman, de mère auprès d'elle. Dans cette situation qui est plutôt délicate, eh bien, Thérèse va savoir, avec une maturité qui surprend, puis un tact admirable pour une fillette de 15 ans, elle a une maturité étonnante. Elle va donner à sa petite mère l'affection qu'elle désire, tout en se référant dans la foi à la prieure, qui est une autre personne, et à la maîtresse et novice, qui est une autre religieuse, pour tout ce qui regarde son initiation à la vie du Carmel. Elle est formidable. Et sœur Agnès Pauline Martin n'a que 32 ans quand elle est élue prieure, donc supérieure. Il n'y a pas d'abbesse chez les carmélites. Comme il y a des abbesses chez les clarisses, mais il n'y en a pas chez les carmélites. La prieure, c'est la supérieure. Elle est élue en 1893. Je vous ai dit qu'elle était petite de taille, mais elle était aussi un petit peu timide, peut-être. Elle était facile à émouvoir, mais elle surmonte quand même avec beaucoup de courage ses aspects un peu faibles, puis la faiblesse aussi de sa santé. Et la jeune prieure, donc, apparaît sur les photos calme et sérieuse. C'est une femme d'écoute, capable de faire face aux événements puis aux interrogations. Et Pauline a une vive sensibilité, qui est équilibrée par une vie spirituelle profonde. Elle a tout ce qu'il faut pour être une sainte. Et puis, elle a un grand esprit de foi. Et durant les 3 années, le triennat, là, parce qu'elles sont élues pour 3 ans, c'est pas comme les abbesses de chez les bénédictines, mettons, qui sont là pour la vie. Elles sont prieures pour 3 ans. Donc, durant les 3 années, sœur Agnès accueille au monastère Céline, la 4e sœur Martin, et aussi sa cousine Marie Guérin, la cousine Germaine. C'est une situation unique dans l'histoire du Carmel. Elles sont 5. Hein. ça exige beaucoup de doigté de la part de la prière, parce que dans les Carmels, il n'y a jamais beaucoup de sœurs, il y a à peu près 20-23 sœurs. De plus, elle confie officieusement à Thérèse la responsabilité du noviciat. Extraordinaire, hein? Et en 1896, après des élections difficiles, bien mère Marie de Gonzague, l'ancienne prieure, reprend la charge de prière, et sœur Agnès est alors rendue plus libre. Pour remplir son étrange mission auprès de sa petite sœur, Thérèse, dans les derniers mois de sa vie, et dans les débuts de ce qu'on appelle l'ouragan de gloire qui va suivre la mort de Thérèse, et ça va couvrir la terre entière. Alors, je vous ai insinué que Thérèse est morte. Et mère Agnès est réélue prieure en 1902. 5 ans, pour ainsi dire, presque après la mort de Thérèse. Au moment où l'histoire d'une âme est publiée, c'est ce livre, cette autobiographie de Thérèse, que sa sœur aînée Pauline lui avait demandé d'écrire. À la suggestion, d'ailleurs, de la sœur aînée vraiment, Marie la première, Marie du Sacré-Cœur. Et elle en avait reçu l'ordre de Pauline, mère Agnès de Jésus, qui était prieure, elle en avait reçu l'ordre de l'écrire. Elle l'a écrit par obéissance, cette histoire d'une âme, qui est devenue un best-seller fantastique à travers le monde entier, et qui a converti des gens de toutes sortes. C'est extraordinaire ce que cet écrit, même à l'époque où il n'était pas épuré de toutes les traces qu'il y avait laissé mère Agnès de Jésus, qui était trop prudente et, un peu étroite d'esprit sous certains rapports. Peut-être un peu méchant de dire ça, mais elle avait manipulé de façon assez grave, malheureusement, le texte de l'histoire d'une âme. Et quand le texte de l'histoire d'une âme a été purifié, tous les autres textes de Thérèse, l'enfant Jésus, ça a été une explosion il y a une 50aine d'années. Et alors, ceci est précisé après la publication en 1902, quelque chose de phénoménal, une perspective de la béatification de Thérèse l'Enfant Jésus. Et en 1923, donc 20 ans plus tard, par un privilège exceptionnel, mère Agnès de Jésus est nommée prieure à vie par le pape Pie XI. Elle va mourir à 90 ans presque, 90 ans moins un mois. Malgré l'avalanche du courrier, le flot des visiteurs, les fêtes successives de la béatification puis de la canonisation, mère Agnès réussit à maintenir dans sa communauté le climat de solitude puis de silence, qui est nécessaire pour une véritable vie contemplative. On ne mène pas une vie contemplative dans le bruit, le parloir, les sorties, je ne sais quoi. Le cloître, ça doit être le cloître. Et c'est là que grandissent les saints. C'est nécessaire. C'est une vocation exceptionnelle, étrange, mais très belle. Au sein de tant de gloire, hein, qui entoure Thérèse, on peut retenir ce mot de Pauline, qui lui fait rejoindre Thérèse. Plus c'est grand, plus j'aime la petitesse. C'est Pauline qui a dit ça. Il y a quelque chose, une aspiration à l'humanité qui est très beau. Plus c'est grand, plus j'aime la petitesse. Elle est donc dépositaire, cette Pauline, de l'héritage qu'on appelle l'héritage thérésien. Elle devient un point de référence vers lequel se tournent des papes, comme Pie XI et Pie XII, qui la consultent, ainsi que les fondateurs de la fameuse mission de France pour la nouvelle évangélisation. Ça vous dit quelque chose, la mission de France avec les prêtres ouvriers et tout ce courant qui a existé? Oh, il faut lire ça, les jeunes. C'est merveilleux, tout ce bouleversement qui s'est accompli pendant un certain temps. J'étais allé voir ça à Pontigny. C'était beau de rencontrer ces hommes, ces prêtres, qui se voulaient prêtres auprès des plus simples et des plus pauvres. Puis il y a aussi les initiateurs du centre de pèlerinage qui commencent à Lisieux la construction de la fameuse basilique. J'y suis allé et j'ai vu là dernièrement une exposition dans le sous-sol, une exposition sur le Saint-Suaire de Turin qui est absolument grandiose. Après la grande tourmente de la guerre de 1939-45, avec tous les bombardements redoutables sur Lisieux, en Normandie, en 1944, Mère Agnès achève dans la paix sa longue carrière. Puis elle meurt doucement le 28 juillet 1951. Comme je vous ai dit, je vous le répète, à 90 ans moins un mois. Dans sa longue vie, Pauline Martin aura laissé une marque ineffaçable sur tout ce qui concerne la vie, les écrits, puis la glorification de sa jeune sœur Thérèse. C'est à elle, donc, que nous le devons les manuscrits autobiographiques, comme je vous ai dit, de Thérèse, ainsi que les derniers entretiens pendant les 4 derniers mois. Elle en a écrit beaucoup de paroles qui sont sorties de la bouche de Thérèse, qui se mourait dans la souffrance, la douleur, l'abandon. Je vous ai tout décrit ça dans une émission que j'ai faite le 30 septembre dernier en parlant de la mort de Thérèse. Ses dépositions denses à Pauline et très précises au procès de béatification puis canonisation sont une mine de renseignements. Il va falloir quand même que je vous apporte des précisions à un moment donné, tout à l'heure. Je voudrais dire quelque chose de bien important, c'est que Mère Agnès, sa sœur Pauline, c'est donc été prière, s'est sentie comme en mission officielle pendant les 4 derniers mois de la vie de sa petite sœur. Elle rend compte des derniers entretiens de Thérèse. Un jour, elle dit à Thérèse, « J'ai peur que votre souffrance aille toujours en augmentant. » Et Thérèse lui répond, « Écoutez bien ce que c'est beau, hein. Nous qui courons dans la voie de l'amour, entrer au Carmel, c'est pas courir dans la voie de la souffrance, de la cèse, de la flagellation, puis des souffrances épouvantables, et puis de la victimisation, comme on dit, devenir comme une victime. Il est une victime de l'amour. Nous qui courons dans la voie de l'amour, ça peut être fait pour nous dans nos maisons, nos foyers, dans nos solitudes, dans le monde, dans nos communautés religieuses ordinaires. Nous qui courons dans la voie de l'amour par notre baptême, notre confirmation, ne devons-nous pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux. Nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux. Ça, c'est manquer de confiance en Dieu, dit Thérèse. Par nos soucis, notre angoisse de l'avenir, nous entravons son œuvre. Nous recevons de lui son être dans le présent. Fille de 24 ans qui parle. Nous recevons de lui son être dans le présent. Nous recevons de Dieu son être dans le présent. Imaginez une phrase comme ça qui sort de la bouche d'une petite fille de 24 ans. Fantastique. Elle ajoute « Tout ce que l'on craint a tendance à se produire. » C'est donc vrai ça, hein? « Tout ce que l'on craint a tendance à se produire. Anticiper ses ennuis, c'est les vivre deux fois, dit-elle. » Ne cherchons pas à aider Dieu ou à nous aider en essayant de voir l'avenir. Vivons attentivement et consciemment le moment présent. Comme Marie, comme la Sainte Vierge. Hein? Voici la servante du Seigneur, que tout arrive ainsi. Tout soit fait selon votre parole, comme on dit souvent. Écoutez bien à midi, Radio Ville-Marie, c'est donné ce récit de l'abandon de la Sainte Vierge à Dieu. On prie là-dessus à Radio Ville-Marie, à midi tous les jours. Thérèse, l'enfant Jésus, ajoute à sa sœur Pauline, « Par l'incarnation de Jésus, l'Éternel est entré dans le temps. Et le temps, si je vis dans l'amour, me projette dans l'éternité. » Que c'est beau! Le temps, si je le vis dans l'amour, me projette dans l'éternité. Elle a 24 ans, je vous le rappelle. Si je vis l'instant présent dans l'amour du Christ, je vis dans l'éternité de Dieu. Sa sœur Pauline devait être émerveillée devant ce qui sortait de la bouche de sa petite sœur. Elle ajoute, Thérèse d'Enfant Jésus, c'est tellement beau, « Le temps que je vis rempli de l'amour du Christ est rempli d'éternité. Par son incarnation, Jésus a fait de nous des êtres d'éternité. » Je n'ai qu'à vivre simplement le temps présent. Elle est donc, Thérèse d'Enfant Jésus, docteur de l'instant présent. C'est absolument phénoménal. Il est une dévotion, je vous l'ai dit, que Pauline a transmis à sa sœur Thérèse de l'enfant Jésus. Dès le début de sa vie au Carmel, elle en donnait plus tard ses détails. C'est Agnès, mère Agnès, Pauline qui parle. Je l'avais conduite à la tribune où se trouve une statue de l'enfant Jésus et lui fis remarquer la beauté de ce nom uni à celui de Thérèse. Puis, je lui expliquai la beauté et l'honneur de porter encore le nom de la Sainte Face. Je lui parlai alors du mystère de la Sainte Face, comme elle le rapporte d'ailleurs dans l'histoire d'une âme. Et je voyais en son regard qu'elle saisissait tout ce que je voulais lui dire. Elle me faisait l'effet d'un ange. Et c'est la sœur aînée qui parle à sa jeune sœur, qui est toute jeune encore, adolescente presque. Dans ses notes intimes, Pauline relate l'origine pour elle-même de ce culte qui devait tant nourrir son âme. C'est Mère Geneviève qui, dès mon entrée au Carmel, m'attira sa dévotion. Elle me disait combien elle était touchée d'avoir vu par la vie de Sœur Marie de Saint-Pierre que notre Seigneur avait choisi le Carmel pour révéler sa sainte face au monde. Aussitôt, je fus touché moi-même. Je trouvais que Jésus nous dévoilait, par sa sainte face, tout l'amour de son cœur. Et je cherchais le moyen d'honorer cette image. Celle du cœur eut bientôt une petite lampe et plus tard de vraies illuminations. Et cette effigie était celle mise en honneur par M. Dupont. Je vous en ai parlé aussi de M. Dupont. J'ai fait une émission sur lui. Le saint homme de Tours. Et provenait d'une édition très appréciée au Carmel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'aimait beaucoup. Elle y trouva l'inspiration de sa strophe. Oh, j'espère que vous connaissez ce texte si sublime. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face. C'est dans son cantique un vivre d'amour. Et ce divin visage, couvert d'opprobre, était bien le Dieu de l'exil. Mais il était en même temps un gage d'éternité. Telle était la pensée que nous livre encore Mère Agnès de Jésus. Elle dit, « Combien je suis heureuse que Céline... » Vous savez, c'est Céline qui a fait, à partir de la face révélée par la photographie en 1898, un an après la mort de Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte face que l'on connaît, la sainte face que l'on voit par millions d'exemplaires, par centaines de millions d'exemplaires sur notre terre, c'est la photographie prise en 1898 par Secondo Pia. Et Céline, religieuse, au Carmel, la dernière entrée, elle a reproduit ça dans un portrait. « Combien je suis heureuse, dit Pauline, que Céline ait reproduit si parfaitement d'après le Saint-Suaire de Turin la vraie sainte face de notre époux bien-aimé. Mais, ô Jésus, ce que nous n'avons point vu encore, c'est votre face glorieuse. » C'est ce que je disais à maman en lui montrant la sainte face quand elle allait mourir. « C'est lui que vous allez voir dans toute sa gloire. » Et elle disait, « Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. » Oh, oh, quand verrons-nous votre visage dans l'allégresse, écrit Pauline, car nous ne serons pleinement rassasiés que lorsque cette gloire nous apparaîtra. Lorsque cette gloire nous apparaîtra. Pour l'anniversaire de naissance de sa mère bien-aimée, le 7 septembre 1895, Sœur Thérèse Enfant Jésus a laissé déborder son cœur reconnaissant dans une espèce de petite poésie de l'époque intitulée « À ma mère chérie, le bel ange de mon enfance ». C'est tout le dévouement de sa Pauline qui s'y trouve largement décrit. C'est simple, ne riez pas. Bien loin du beau ciel, ma patrie, je ne suis pas seul ici-bas, car en l'exil de cette vie, un bel ange guide mes pas. Ce bel ange, au profond mystère, m'appelait sa petite sœur. Il avait les traits d'une mère et je reposais sur son cœur. Un soir de décembre 1894, où Mère Agnès de Jésus se chauffait avec ses sœurs Marie et Thérèse dans la salle de récréation, et bien Sœur Thérèse, l'Enfant Jésus, narrait de façon si charmante quelques traits que c'est là que Sœur Marie du Sacré-Cœur, la sœur aînée, a dit à ma mère, « Quel dommage que nous n'ayons pas tout cela par écrit. » Et c'est comme ça que ça a été entrepris, le récit de sa vie, cette histoire d'une âme fantastique. Et Mère Agnès de Jésus a donné, soit dans les Novissima Verba, soit au procès, un récit de la mort d'amour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voici ce que j'ai vu briller en elle davantage pendant sa dernière maladie, c'est sa simplicité. La défiance d'elle-même, l'humilité, le recours constant à la prière et à la confiance en Dieu. Et sur l'instant suprême, elle dit, c'est donc une extase, une vision du ciel, mais une vision qui mettait dans son cœur trop d'amour, trop de reconnaissance. Elle n'en put supporter les assauts délicieux et lui dut le brisement de sa chaîne. Elle était d'une beauté ravissante, avec un sourire parlant qui semblait dire « Le bon Dieu n'est qu'amour et miséricorde ». Et ce fut Mère Agnès de Jésus qui a peint la croix de bois destinée à la tombe. Et elle y a inscrit le nom de Sœur Thérèse d'Enfant Jésus avec les dates 1873-1897. Et elle avait ajouté ces paroles d'une poésie de la Sainte « Que je veux, ô mon Dieu, porter au loin ton feu, rappelle-toi ». Mais l'ouvrier qui porta la croix au cimetière, n'a pas pris garde de la peinture fraîche, puis a tout effacé ça, et on a mis à la place les paroles de Thérèse, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Dans les derniers mois de sa vie, Pauline exprimait toujours la même pensée de confiance absolue. Voici ce que disait Pauline Martin. « Le bon Dieu ne demande qu'à nous combler de grâce. On lui fait de la peine en n'y croyant pas assis. Nous sommes toujours comblés de grâce à chaque instant. Au fond, on n'a pas à lui demander. Ce qu'il faudrait demander, c'est que notre cœur s'ouvre, que notre volonté adhère à la sienne, que notre amour adhère aussi. » Car il est toujours là. J'aime bien cette parole de Pauline. Le bon Dieu ne demande qu'à nous combler de grâce. On lui fait de la peine en n'y croyant pas assez. Le 7 avril 1897, à sa petite mère qui lui avouait ses appréhensions de ce redoutable passage de la mort, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus avait répondu: « Le bon Dieu vous pompera comme une petite goutte de rosée. » Alors, Mère Agnès de Jésus, Pauline avait inscrit cette consolante promesse dans ses notes intimes en la commentant ainsi. « Le Seigneur nous dit par un prophète qu'un soleil de justice se lèvera pour ceux qui l'aiment et que la guérison sera dans ses rayons. Eh bien, la petite goutte de rosée ne sera donc pas détruite, mais seulement pompée et attirée par le soleil d'amour. Et la guérison sera dans ses rayons, c'est-à-dire qu'elle se trouvera en même temps pompée et purifiée. » Et cette double prophétie sur laquelle se basait la suprême espérance de Mère Agnès de Jésus se réalise sous les yeux de ses sœurs et de toutes les religieuses du monastère. Comme la rosée du matin n'est aspirée que lentement par la chaleur des rayons solaires, ainsi, son âme bénie était attirée suavement dans un long sommeil vers le foyer de l'amour divin. Et le samedi 28 juillet au matin, le médecin constate un affaiblissement général et prévient le dénouement qui s'approche. Au début de l'après-midi, la respiration précipitée se fait comme intermittente, c'est très dangereux. Mais le cœur de Pauline lutte quelques heures encore. Cette vieille religieuse de près de 90 ans lutte toujours. La communauté, c'est en 1951, entoure sa mère, la mère prière, et doit à regret s'éloigner pour le chant du Salve Regina et du Salut. Et elle revient en hâte, appelée par la cloche de l'infirmerie, un quart d'heure après avant l'Angélus, tout à coup, les mains inertes et glacées de celle qu'on pourrait appeler Sainte Pauline Martin, mourante, presse nettement celle de ses infirmières, enlacée dans les siennes. Puis ses beaux yeux, car elle avait de très beaux yeux, on le voit sur les photos nombreuses d'elle, se sont ouverts, ont fixé ses filles, toutes les sœurs du couvent, d'un regard clair et tout à fait lucide. Et comment exprimer, on pourrait dire, le saisissement des religieuses devant ce réveil inespéré en cet instant suprême, Alors elle s'empresse de réciter son invocation préférée, celle qu'elle répétait souvent, « Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Souvenez-vous qu'on réussissait ça des milliers de fois quand on était jeune. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Combien de fois on réussissait ça, même en marchant dans la rue, dans les autobus, les tramways autrefois. Tout doucement au fond de notre cœur. Aussitôt, une légère inclination de tête, un mouvement des lèvres, un sourire même, marque l'acquiescement de Pauline Martin. Elle revient donc en pleine connaissance pour un ultime adieu. Sœur Geneviève est là, ma petite mère, tous vos enfants sont là, près de vous, avec Sœur Geneviève. Alors son regard enveloppe ses enfants. Il se tourne dans la direction de Céline, qui est toujours vivante. On poursuit les invocations au Sacré-Cœur. Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur. Qu'il soit bien vôtre. Changez mon cœur avec le vôtre. Placez mon cœur tout près du vôtre. Puis une nouvelle inclination de la tête. Elle s'unit à cette prière. C'est l'acte d'offrande à l'amour de Thérèse qui est récité à voix basse. Ce bel acte que vous connaissez bien. Mon Dieu, je vous aime. Vierge du sourire, souriez-moi. Et enfin, sainte petite Thérèse, aidez-moi. Venez me chercher, car elle est canonisée, sainte Thérèse Enfant Jésus, depuis 1925. Et Thérèse descend, on peut dire, à cet appel. Au même instant, en fermant à demi les yeux, sa petite mère, Pauline, mère Agnès de Jésus, exhale son dernier soupir. Puis elle s'envole pour la rencontre éternelle avec Dieu. Pouvez-vous demander pourquoi on attache de l'importance à ces femmes? N'oubliez pas ce que disait Julien Green qui vient de mourir. Sainte Thérèse de Lisieux, elle ne peut voir un lieu commun sans sauter dessus comme sur une proie. Mais elle lui rend une sorte de fraîcheur. Plutôt vivre pauvre et près de Dieu que sous les lambris dorés du monde, je cite de mémoire, mais je crois bien ne pas me tromper. Comment pourrait-on en sourire de ces paroles de Thérèse? Elle n'a jamais entendu le Christ lui parler. Elle n'a pas eu ce qu'on appelle des consolations. Elle ne comprend bien que l'Évangile est l'imitation, mais elle a l'infini dans le cœur. Et je crois bien que cet infini dans son cœur a marqué sa sœur Pauline et ses autres sœurs, et toutes les sœurs du couvent, et des millions de gens, et des centaines de millions de gens sur la terre. Vient de paraître chez Bellarmin un beau livre, Thérèse de Lisieux, 100 ans plus tard, son actualité, son influence. C'est chez Bellarmin. Ce sont les actes du colloque qui s'est tenu au Grand Séminaire de Montréal, sous la direction du père Yvan Marcil, carme, remarquable carme ici de notre Carmel du nord de la ville, près du métro, mon Dieu, dans le nord de la ville.